Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 30 mars 2023, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia, pour commencer les titres. La vice-présidente américaine Kamala Harris annonce à Accra $1 milliard pour les femmes en Afrique. Au Sénégal, heurts entre policiers et étudiants hier à Dakar, à la veille d'un procès à risque ce jeudi. En RDC, mort d'au moins 21 militants politiques à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Le président américain Joe Biden veut croire que le vent a tourné pour plus de démocratie dans le monde. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est en Tanzanie, deuxième étape de sa tournée en Afrique. Hier, au Ghana, elle a annoncé une initiative $1 milliard pour améliorer l'émancipation économique des femmes en Afrique. Son bureau a dévoilé le programme, en grande partie financé par le secteur privé, dans la capitale Accra. Lionel Gahima.
Prévue pour durer jusqu'au 2 avril, sa tournée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, survient après le sommet États-Unis-Afrique de décembre à Washington, au cours duquel le président Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique, au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Madame Harris a déjà annoncé plusieurs mesures d'aide, notamment $139 millions pour le développement économique et culturel au Ghana et l'investissement de $100 millions dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, confrontés au risque de débordement des violents djihadistes venus du Sahel. L'initiative en faveur de l'émancipation économique des femmes africaines inclut près de $400 millions du secteur privé, pour aider à combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes. L'amélioration du statut économique des femmes et des filles n'est pas seulement une question de droits humains, de justice et d'équité, c'est aussi un impératif stratégique qui réduit la pauvreté et favorise une croissance économique durable, a déclaré le bureau de la vice-présidente américaine.
L'opposant rwandais Paul Rusesabagina, et héros du film Hôtel Rwanda, est arrivé aux États-Unis après sa libération vendredi et son passage par le Qatar, a annoncé hier la Maison-Blanche. Je suis ravi d'accueillir Paul Rusesabagina ici aux États-Unis. Nous sommes heureux de l'avoir de nouveau sur le sol américain et réuni avec sa famille et ses amis qui attendaient ce jour depuis longtemps, a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale. Au Sénégal, des heurts ont opposé mercredi à l'université de Dakar les policiers et des étudiants qui tentaient de participer à une manifestation interdite par les autorités. Ces événements ont eu lieu à la veille du procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko, procès qui se tient ce jeudi. Les détails avec Nani Talani.
Déployée massivement aux alentours de l'université, la police a envoyé des gaz lacrymogènes en direction des étudiants reclus à l'intérieur du campus. Les étudiants ont riposté à coups de pierre, mais ont été empêchés de sortir. Un journaliste a été appréhendé et emmené de force dans un fourgon de police avant d'être relâché. Quelques instants plus tard, l'opposition au président Macky Sall a annoncé des marches et manifestations à Dakar et dans le pays pour mercredi, jeudi et lundi que les autorités ont interdites. Elle dit défier l'interdit alors que l'opposant Ousmane Sonko doit comparaître ce jeudi à Dakar pour diffamation contre un ministre. Monsieur Sonko et ses supporters accusent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024. Le parti présidentiel accuse M. Sonko de vouloir paralyser le pays et de se servir de la rue pour échapper à la justice.
En RDC, plus de 20 militants politiques sont morts par balle ou par noyade le 24 mars dernier à Lubumbashi, grande ville du sud-est, selon leur parti et une ONG qui ont accusé mercredi de mystérieux hommes en tenue militaire et guidés par un civil. Les victimes étaient membres du parti UNAFEC. Eh bien, interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée dans la région a dit ne pas être au courant de cet événement. L'Organisation mondiale de la santé a appelé mercredi la Guinée équatoriale à lui signaler les cas de virus de Marburg en raison de craintes de contamination plus répandues qu'annoncées, John Linden.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'organisation onusienne, a précisé qu'il y a eu 9 cas officiellement annoncés par la Guinée équatoriale, avec 7 morts. Ces cas concernent 3 provinces espacées de quelques 150 kilomètres, suggérant une transmission plus large du virus, a-t-il dit. L'OMS est au courant de cas supplémentaires et nous avons demandé au gouvernement de signaler officiellement ces cas à l'OMS, a ajouté le patron de l'organisation. Le 22 mars, l'OMS avait annoncé avoir connaissance de 20 décès, probablement provoqués par cette fièvre hémorragique. Selon Abdi Mahamoud, gestionnaire des incidents, il y a des signes de transmission répandus inquiétants. L'apparition de ces cas est plus étendue et pourrait se manifester dans plusieurs provinces, a-t-il ajouté. Pour Michael Ryan, directeur des urgences de l'OMS, les États ont des obligations internationales claires en termes de gestion des crises sanitaires. Il estime qu'au milieu d'une épidémie et en cas d'information nouvelle et significative, les populations doivent être informées, mises en alerte et capables de prendre des mesures.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a assuré hier que le vent avait tourné vers plus de démocratie dans le monde. C'était à l'occasion d'un sommet virtuel organisé à l'initiative des États-Unis, événement qui a par ailleurs plutôt résonné de mise en garde sur le progrès de l'autoritarisme, Jacques Aristide.
Il y a des signes réels que le vent a tourné vers plus de démocratie aux quatre coins du globe, a dit le président américain dans une courte déclaration depuis la Maison-Blanche. La démocratie demande de gros efforts et la tâche n'est jamais finie, a toutefois ajouté Joe Biden. Pour lui, l'objectif du sommet pour la démocratie n'est pas de faire de grands mots, mais d'inciter à l'action contre le changement climatique, contre les discours haineux, contre la corruption ou en faveur des droits des femmes. La démocratie est attaquée et il faut la relancer, a pour sa part déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, l'un des co-organisateurs avec le Costa Rica, les Pays-Bas et la Zambie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui mené la charge contre la Russie en soulignant son rôle dans des opérations de désinformation et d'ingérence dans des élections dans le monde. Washington, appelant les démocraties à s'unir face à la Russie et la Chine, va injecter 690 millions de dollars pour soutenir cet effort. La deuxième édition du sommet réunit les dirigeants de 121 pays.
Des centaines de personnalités, dont le patron de Twitter, Elon Musk, ont signé hier un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT-4, le modèle d'OpenAI lancé mi-mars. Les signataires de la pétition évoquent des risques majeurs pour l'humanité, Abdourahmane Dia.
Il réclame un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité dans de nouvelles autorités réglementaires dédiées à la surveillance des systèmes d'intelligence artificielle, des techniques pour aider à distinguer le réel de l'artificiel et des institutions capables de gérer les perturbations économiques et politiques dramatiques, en particulier pour la démocratie, que l'intelligence artificielle provoquera. La pétition réunit des personnalités qui ont déjà publiquement exprimé leurs craintes envers des intelligences artificielles incontrôlables qui surpasseraient l'être humain, dont Elon Musk, propriétaire de Twitter et fondateur de SpaceX et de Tesla, le Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens. Également signataire, Joshua Bengio, pionnier canadien de l'intelligence artificielle, qui a exprimé ses préoccupations lors d'une conférence de presse virtuelle à Montréal. Je ne pense pas que la société est prête à faire face à cette puissance-là, au potentiel de manipulation, par exemple, des populations qui pourraient mettre en danger les démocraties, a-t-il dit. Sam Altman, patron d'OpenAI, concepteur de ChatGPT, a lui-même reconnu être un petit peu effrayé par sa création si elle était utilisée pour de la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques.
La Chine a promis de prendre des mesures fermes pour riposter à une éventuelle rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy au cours d'un déplacement aux États-Unis qui a commencé mercredi à New York avant de se poursuivre en Amérique centrale. La Minute Éco, Nanit Talani.
Les besoins d'importation de blé du Soudan passeront à 3,5 millions de tonnes cette année en raison d'une baisse de 30% de la récolte locale après que les agriculteurs ont décidé de planter différentes cultures, a déclaré la FAO mercredi. Certains agriculteurs ont déclaré à Reuters que le gouvernement n'avait pas acheté leur blé aux conditions promises l'an dernier, les laissant réticents à l'idée de planter cette céréale ou sans argent pour planter une nouvelle culture. En 2022, le Soudan a importé 2,7 millions de tonnes de blé et de farine pour un coût de 1,06 milliard de dollars. L'Égypte prévoit d'augmenter de 20% son allocation pour les subventions alimentaires et de 24% pour les produits pétroliers au cours de l'exercice 2023-2024, selon un projet de budget approuvé mercredi par le cabinet, qui doit encore être approuvé par le Parlement. Pour terminer, la société Première African Minerals a déclaré mercredi avoir terminé la construction d'une usine de traitement du lithium dans une de ses mines au Zimbabwe et qu'elle prévoit de commencer la production de concentré de spodumène plus tard cette semaine. L'usine d'une capacité de production de près de 50 000 tonnes de concentré de spodumène par an a été construite dans le cadre d'un accord de 35 millions de dollars signé en 2022 avec la société Canmax Technologies.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le dernier match de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 s'est disputé hier à Kigali.
Oui, ça s'est joué entre le Rwanda et le Bénin et les deux équipes se sont séparées dos à dos, un but partout. Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes qui gardent leur place. Le Rwanda est troisième du groupe L avec 3 points et le Bénin dernier avec 2 unités. Le Mozambique est deuxième avec 4 points derrière le Sénégal, premier déjà qualifié. Ce match a fait grand bruit. Le stade Pelé de Kigali n'ayant pas été homologué, la CAF avait décidé dans un premier temps de relocaliser le match avant de revenir sur sa décision. Mais décidant que le match va se jouer à huis clos, déjà mécontents, les Béninois étaient encore plus en colère quand ils ont appris que le milieu de terrain de Rayon Sport, Kevin Muhire, allait jouer la rencontre avec les Amavubi. Les Béninois estiment que le Rwandais a accumulé des cartons jaunes et était donc disqualifié pour ce match. Ils ont donc posé une réserve. Il reste encore 17 places à prendre lors des deux dernières journées prévues en juin et septembre prochain. Pour rappel, 7 pays sont qualifiés pour cette CAN prévue en janvier 2024. Il s'agit du pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie et l'Afrique du Sud.
La FIFA retire à l'Indonésie l'organisation du mondial des moins de 20 ans.
La FIFA a pris cette décision en raison d'un imbroglio politique ayant empêché la tenue du tirage au sort. Le tournoi est prévu du 20 mai au 11 juin prochain. Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible. Les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées, précise l'instance mondiale du football dans un communiqué évoquant de possibles sanctions à l'égard de la Fédération indonésienne de football. La FIFA n'avance pas d'explication, mais un responsable du football indonésien lit cette décision à des propos du gouverneur de Bali s'opposant à la présence d'Israël, qualifié pour la première fois durant cette compétition alors que les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique et que Jakarta est un fervent soutien de la cause palestinienne. La Tunisie, le Sénégal, le Nigeria et la Gambie représenteront l'Afrique à ce mondial dès moins de 20 ans. Une commission se réunit demain vendredi à Pretoria pour décider ou non de libérer de façon anticipée l'ancien roi des stades amputé des deux jambes. Il avait été condamné pour le meurtre en février 2013 de Riva Steenkamp, sa petite amie. La loi sud-africaine prévoit qu'un condamné puisse, une fois la moitié de sa peine écoulée, bénéficier d'un aménagement de peine. Oscar Pistorius, condamné en appel à 13 ans et 5 mois de réclusion en novembre 2017, est éligible depuis juillet 2021. Son comportement en détention, son état physique et mental et le risque de récidive seront scrutés.
Merci Yacouba.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, dans des communiqués séparés, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés ont exprimé leur inquiétude après ce qu'elles qualifient de cas d'enlèvement et d'enrôlement forcé de citoyens comme supplétifs de l'armée dans la lutte contre le djihadisme. C'est le cas de Boukaré Ouédraogo, enrôlé comme volontaire pour la défense de la patrie, ainsi que de deux autres cas à Ouaga. Les deux organisations dénoncent une arrestation arbitraire et appellent à leur libération immédiate. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Daouda Diallo, président du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Il y a le cas de Boukaré Ouédraogo qui a été reçu en audience par le chef de l'État dans le centre nord, à Kaya précisément. Et en plein milieu d'audience, il a décidé d'enrôler le responsable du mouvement appel de Kaya, c'est-à-dire Boukaré Ouédraogo, comme volontaire pour la défendre la patrie. Des propos que ce dernier aurait tenus et qui aurait donné une position stratégique au groupe ennemi. Pourtant, ce dernier n'a fait qu'alerter pour demander plus de sécurité pour protéger les sources de ravitaillement en eau de la région du centre nord. Le deuxième cas d'enrôlement forcé, c'est le samedi 25 mars 2023. Un certain Ouédraogo Issaka, qui est le président de la coalition pour la convergence patriotique, qui a été aussi enrôlé juste après sa conférence de presse tenue à la maison de la femme. La traque a continué contre les membres de ce mouvement et deuxième personne a été encore enrôlée forcément. Ce qui arrive est une violation très grave des droits humains et de la loi adoptée le 28 novembre 2022 à l'Assemblée nationale. Il stipule clairement que l'enrôlement pour la défense nationale, il est volontaire et il faut des personnes de bonne moralité et jouissant d'une bonne aptitude physique et mentale. Donc je ne sais pas sur quelle base aujourd'hui le chef de l'État peut, au mépris de la loi, enrôler des citoyens burkinabés qui également apportent leur contribution sur la base de la veille citoyenne et également soutenir l'effort de l'autorité au niveau local.
Est-ce que vous comprenez la communication de guerre que veut instaurer le gouvernement?
Oui, on est d'accord avec la communication de guerre avec la situation, on comprend. Mais ici, on s'inscrit en faux par rapport à l'accusation portée à Boukaré Ouédraogo parce que le lac Dem, c'est-à-dire le site qui est estimé stratégique, était à sa troisième attaque. Donc, ce n'est pas Boukaré Ouédraogo qui a indiqué au groupe djihadiste que c'est une position stratégique, mais c'est le groupe djihadiste qui ont tenté à maintes reprises de contrôler cette zone stratégique. Et donc, Boukaré Ouédraogo n'a fait qu'insister pour dire qu'au regard des menaces et des défiances qui planent sur cette localité et sur le site stratégique, il y a lieu de renforcer la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux pour un citoyen? Il faut qu'on respecte la loi, la vérité, et dans cette dynamique, on peut soutenir l'effort de nos autorités et l'armée qui fait un formidable travail pour garantir la sécurité au Burkinabé.
Vous êtes dirigeant d'une organisation de la société civile. Est-ce que vous sentez que désormais votre liberté d'expression peut être remise en cause?
Il y a plusieurs cas de manifestation de la négation de la liberté d'expression et de la liberté de presse aujourd'hui que l'on constate de plus en plus. Il y a ces cas d'arrestation des leaders d'opinion de la société civile enrôlés, forcés comme BDP, c'est à quoi nous assistons actuellement. C'est vraiment la négation de la liberté de la presse et des médias, la négation de la liberté d'opinion. Il faut accepter la critique constructive et là, dans la vérité et dans la détermination du peuple burkinabé, on aura la victoire.
En Côte d'Ivoire, les usagers de la route devront désormais faire attention à leur vitesse pour contrer la mortalité sur les routes. Les autorités ont lancé début mars le permis à points. Elles ont mis en place un système de surveillance grâce à un réseau de caméras installé sur plusieurs axes dangereux. Les conducteurs pris par les mailles du filet sont verbalisés, mais surtout perdent des points sur leur permis de conduire. De nouveau, Yacouba Ouédraogo.
Il a été flashé à 126 km/h. Fernandez Depri va perdre 3 points. Sur l'autoroute qui relie Abidjan à la ville balnéaire de Bassam, un barrage policier applique les règles du nouveau permis à points. Si certains conducteurs s'étonnent d'avoir enfreint la loi, La plupart accueillent avec bienveillance cette nouvelle mesure.
C'est une bonne initiative parce que je peux dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'accidents. Il y a tellement de chauffards, si je peux me le permettre de le dire. Donc avec ça, je pense que ça peut amener chacun de nous vraiment à se ranger concernant la conduite.
Chaque détenteur du permis de conduire a reçu le 1er mars un capital de 12 points qui diminue au fil des infractions. 2 points pour l'utilisation du téléphone au volant, 3 points pour un excès de vitesse au-delà de 25 km/h, entre autres. Des stages à 100 000 francs CFA sont aussi mis en place pour permettre aux usagers de récupérer une partie de leurs points. Pour s'acquitter de la contravention, les conducteurs physiquement interpellés doivent payer sur place dans une fourgonnette pour pouvoir reprendre la route.
41 100 francs.
Payer, avoir un reçu, c'est encore plus sécurisé, puisque c'est de la caisse, le temps que ça s'en va.
D'autres conducteurs en faute reçoivent leur contravention par un SMS et peuvent payer en ligne. Les autorités s'appuient sur un réseau de plus de 200 caméras disposées le long des axes considérés comme les plus dangereux. En diminuant les interpellations physiques, les autorités espèrent aussi limiter les arrangements avec les policiers. Raphaël Gossam, directeur adjoint de la police spéciale de la sécurité routière.
Ici, le dispositif mis sur place contient les agents de Kipus Afrique où il y a une sorte de comptabilité. Donc, il n'est plus question d'échanger avec l'élément de police pour pouvoir faire un arrangement ou bien payer quelque chose.
Avec ce nouvel arsenal, la Côte d'Ivoire espère diminuer le nombre de morts sur ses routes de 50% d'ici 2025. Un défi qui passe par le renouvellement du parc automobile et la rénovation des voies. Un décret entré en vigueur en 2018 interdit désormais les importations de véhicules de plus de 5 ans en Côte d'Ivoire. Amadou Kone, ministre ivoirien des Transports.
On a un système donc, de transport en termes législatifs et réglementaires qui était quand même désuet. Des textes qui datent de 1960 qui n'ont pas été revus alors qu'il y a une progression importante. Donc, on a fait beaucoup de réformes et ces réformes donc, nous ont amené à aller vers la dématérialisation partielle du contrôle technique parce que ça c'était vraiment un gros problème.
Selon le ministère des Transports, le nombre de morts sur les routes en Côte d'Ivoire est passé de 1614 en 2021 à 1051 l'an dernier.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Les Camerounais ont une perception négative des activités de la police municipale selon une étude conduite par l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme au Cameroun. Cette dernière recommande de repenser l'organisation de la police municipale pour en faire un instrument de cohésion sociale. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les activités de la police municipale au Cameroun sont mal perçues par plus de 42% des personnes interrogées dans quatre grandes métropoles du pays. Ces Camerounais imputent à la police municipale des actes de violence, des saisies arbitraires de biens et marchandises, entre autres. Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, auteur de l'étude.
L'étude aussi avait pour vocation de remettre en avant la question de la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans l'action, n'est-ce pas, des municipalités. Nous avons donc produit un document de politique qui va donc servir à orienter les échanges et les discussions avec les partenaires aussi bien gouvernementaux que partenaires bilatéraux du Cameroun.
La police municipale existe au Cameroun depuis 2004. Mais le décret présidentiel qui fixe son organisation et son fonctionnement date d'août 2022. Une fois de plus, la directrice de Nouveaux Droits de l'Homme, Cyril Roland Béchon.
Les recommandations vont de la reformulation du décret à la formation des agents en droits humains, en passant aussi par l'éducation à la citoyenneté des populations, mais surtout à la clarification et à la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens.
L'un des facteurs à risque dans les activités actuelles de la police municipale est relatif à l'absence des mécanismes de plainte en cas de dérive des agents de la dite police. Steve Tameton, expert en gouvernance.
Le plaidoyer donc c'est en faveur de l'instauration d'un de ces mécanismes qui permettent aux citoyens de savoir exactement où ils peuvent s'orienter pour expliquer leur plainte et en conséquence bénéficier des avantages liés à leur position de citoyen et d'administré.
Bienvenue au Linga, est le coordonnateur des activités de la police municipale à la mairie du 5e arrondissement de Yaoundé, l'une des plus principales de la capitale. Il réagit aux résultats de l'étude.
Je pense que ce serait pas normal de dire mal nécessaire, mais plutôt un maillon essentiel dans la régulation de l'ordre urbain. La perception de la police municipale qui mène des activités de régulation de l'ordre urbain, c'est très difficile parce qu'ils sont au quotidien. Donc ça sera une mauvaise perception comme les résultats le témoignent actuellement. Mais il faut juste un cadre légal qui permet à la police municipale de mener ses activités dans le respect strict de la réglementation. Si on enlève la police municipale dans la gestion de l'ordre urbain, Yaoundé deviendra plutôt comme une ville de bouse.
Le décret présidentiel qui a créé la police municipale a prévu une formation que les agents municipaux doivent suivre au sein d'une institution basée à Boya, au sud-ouest en zone anglophone. Une école éloignée de certaines régions du pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a entamé dimanche une tournée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. À travers cette tournée, les États-Unis veulent resserrer les liens avec le continent africain dans un contexte marqué par une forte concurrence avec la Chine et la Russie. Mohamedou Humfa s'est entretenu avec le docteur Christopher Fomunyo, directeur Afrique du National Democratic Institute, un think tank basé ici à Washington.
Pendant les 4 années de l'administration Trump, il n'y avait pas un grand intéressement à la politique africaine. Donc Biden voudrait démontrer qu'il est attaché au continent, que la nouvelle politique américaine qui a été déroulée en août 2022 porte, et surtout que le dernier sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 qui a arrêté un certain nombre de recommandations que cela devrait être suivi et pris au sérieux. Cela explique pourquoi il y a ce déploiement des autorités américaines à travers le continent.
Oui, effectivement, ces derniers mois, il y a eu plusieurs hauts responsables américains qui sont rendus en Afrique. Je pense là à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Il y a eu le secrétaire d'État lui-même, Anthony Blinken, qui était en Afrique. Toutes ces visites, ce n'est pas par hasard pour contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent.
Effectivement, certains pourraient toujours penser que c'est cette rivalité entre les grandes puissances qui joue. Mais n'oublions pas aussi que, quelque part, cette administration voudrait démontrer son sérieux par rapport à les bonnes relations avec l'Afrique et aussi mener sa propre politique, quelles que soient les relations que les différents pays africains peuvent mener avec d'autres puissances à travers le monde. Le secrétaire d'État Tony Blinken est allé au Niger pour la première fois. C'est la première fois dans l'histoire qu'un secrétaire d'État des États-Unis a atterri à Niamey. Sur notre continent, nous sommes encore dans la diplomatie de proximité. Les gens aiment vous voir, vous sentir à des moments difficiles, mais aussi à des moments de joie. Et c'est par ces relations-là qu'on peut vraiment renforcer les relations entre les États-Unis et le continent africain.
Et on a le sentiment que les Américains mettent de moins en moins l'accent sur les thématiques qui fâchent certains chefs d'État, comme les droits de l'homme, comme la démocratie. Est-ce que c'est une perception juste, Dr. Fomenyo?
C'est une inquiétude dans certains milieux, surtout pour nous autres qui sommes très focalisés sur les questions de la démocratie et de la bonne gouvernance. On doit veiller à ce que dans cette démarche qui va dans le sens de vouloir consolider les relations, que les sujets de la démocratie et de la bonne gouvernance soient toujours traités comme une priorité. Je suis très heureux de constater que dans les 4 piliers de la politique de l'administration Biden, tels que déroulés dans sa stratégie africaine au mois d'août 2022, la démocratie et la bonne gouvernance, ainsi que les questions de sécurité, figurent en bonne place.
Est-ce que Washington doit continuer à considérer que la démocratie est déterminante pour le continent africain?
Je crois que oui, parce que dans les sondages qui sont faits par Afrobaromètre et d'autres institutions reconnues, plus de 70% des Africains aspirent à vivre dans des pays démocratiques. Donc moi, je pense que la première demande vient des Africains et que les vieilles démocraties, comme les États-Unis et autres, devraient les accompagner pour consolider cette démocratie et la bonne gouvernance qui devrait ouvrir aussi d'autres opportunités pour la consolidation du développement économique du continent.
Le docteur Chris Fompugno, directeur Afrique du National Democratic Institute, un think tank basé ici à Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde Lionel Runanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.